France Culture.
Réplique, justice et politique avec Henri Guénaud et Denis Salas. La condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité, immédiatement exécutoire, pour détournement de fonds publics, et la peine extrêmement lourde demandée par le ministère public à l'encontre de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Lesbiennes ont suscité de nombreux commentaires. Cette décision et ce réquisitoire méritent en effet qu'on s'y arrête. La justice est-elle allée trop loin dans les deux cas, ou bien les critiques qui se font entendre mettent-elles en péril le fragile et précieux édifice de l'état de droit? Telle est la question que je voudrais poser d'entrée de jeu au politique Henri Guénaud, qui fut conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, et à l'ancien magistrat Denis Salas. Henri Guénaud pour commencer.
S'il y a autant de réactions et autant de doutes aussi, y compris chez des gens qui ne sont pas engagés dans le débat, dans le combat politique, c'est parce que la situation est structurellement préoccupante aujourd'hui. Voilà, dans l'évolution au cours des dernières années de la justice et des jugements qui sont rendus, qui, je le dis d'emblée, ne sont pas simplement du fait des juges, mais aussi du fait du législateur. C'est-à-dire qu'il y a, payons là le prix d'une sorte de panique qui a pris le législateur au fur et à mesure qu'il avait failli dans sa tâche et qu'il était critiqué. Il a essayé de se protéger en voulant j'allais dire laver plus blanc que blanc, et il a donc ouvert les portes à quelque chose qui me paraît dangereux à la fois pour la démocratie, pour l'état de droit lui-même et même pour la magistrature. Personne, en tout cas pas moi, ne rêve d'un pays sans magistrats, sans tribunaux, sans indépendance de la justice, parce qu'elles sont la garantie de l'ordre social et de nos libertés les plus fondamentales. Mais il me semble qu'on a introduit, on a ouvert la porte à une trop grande subjectivité de la justice et des juges. Tout le monde a une part de responsabilité, c'est de ça dont il faudra parler.
Alors, je rappelle, parce que c'est quand même, il faut le savoir, que Marine Le Pen a été condamnée à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme, aménageable sous la forme du port d'un bracelet électronique, 100 000 euros d'amende, et donc 5 ans d'inéligibilité exécutoire par provision. Pourquoi? Pour détournement de fonds publics, des assistants parlementaires du Rassemblement national ont été employés au service du parti et non au service du Parlement. Commençons peut-être par là, Denis Salas. Trouvez-vous cette condamnation justifiée? Et pensez-vous donc qu'on a tort aujourd'hui dans certains cercles de s'en prendre à la justice et même à l'exécution provisoire de l'inéligibilité? Denis Salas.
Moi, je suivais cette affaire de loin, si vous voulez. Au début, je n'avais pas parfaitement perçu les enjeux et le contenu du dossier. Je suivais beaucoup de journalistes, donc on avait beaucoup d'informations assez rapidement. Et quand j'ai appris, si vous voulez, le fait que le parquet avait demandé l'exécution provisoire pour la peine d'inéligibilité, je me suis dit, c'est dans le rôle du parquet de demander une peine exemplaire, entre guillemets. Et le juge, lui, appréciera de manière totalement indépendante, comme vous l'avez dit. Alors, j'en étais là, et puis ensuite, j'ai regardé le dossier de plus près, et je me suis aperçu que le dossier était singulièrement lourd, qu'il y avait déjà une première instruction au stade de l'OLAF, le gendarme européen, comme on dit, au niveau européen, et puis ensuite une instruction très longue de 10 ans, au cours de laquelle le Rassemblement national, plusieurs députés, plusieurs assemblées parlementaires concernées, avaient tenu un discours « Nous sommes innocents ». En outre, il y avait ce discours-là qui faisait que le monde judiciaire et le monde politique ne parlaient pas le même langage, si vous voulez. Et il y avait deux mondes parallèles qui se suivaient. Et que le politique, d'un côté, disait « Vous ne comprenez pas comment fonctionne un parti politique, je vais vous l'expliquer. » Et le juge disait « Attendez, non, non, moi, je vous reproche une infraction, expliquez-vous sur l'infraction elle-même. » Et ce dialogue de sourds n'a pas pu s'enclencher. Et devant cette impossibilité d'un dialogue où chacun pourrait effectivement, en tout cas l'accusé, entre guillemets, les accusés auraient pu effectivement prendre part à une forme de responsabilité, de début de responsabilité, et les juges, il y en a trois, c'est une collégialité, ont décidé non seulement cette peine d'inéligibilité qui est prévue par le code pénal, vous l'avez dit, mais en outre une exécution provisoire, parce qu'ils craignaient effectivement, compte tenu de ce discours de négation des faits, que la réalité de l'infraction pouvait se produire dans l'avenir. Voilà pourquoi, peu à peu, j'ai compris le sens de cette décision qui, au début, ne m'était pas parue d'une totale évidence grâce à la motivation que les juges ont donnée et qui a été ensuite largement relayée par la presse.
Compris, ça veut dire justifié, en fait. Ça veut dire vous comprenez cette décision et vous l'approuvez.
Je n'ai pas, moi, à l'approuver en tant que moi-même. Simplement, en tout cas, je pense que comme tout citoyen, et d'ailleurs, les sondages l'ont montré, l'ont compris, et on peut, oui, on peut le dire, au bout du compte, comprise et approuvée.
Et vous, alors, Henri Guénot, vous la comprenez et vous l'approuvez?
J'ai du mal à la comprendre. C'est-à-dire que, d'abord, ce débat entre la sphère politique et la sphère judiciaire, dans le cas présent, comme dans toutes les histoires d'emplois fictifs ou qui mettent en cause le financement des partis, ce débat est légitime. Voilà, il y avait une question d'interprétation. Il ne justifie pas le fait qu'il y ait ce débat et qu'il y ait une telle divergence, ne justifie pas que cette divergence soit sanctionnée par le tribunal. Il a sanctionné le délit en lui-même, il n'a pas sanctionné les moyens de la défense des prévenus. Ça, c'est ma première remarque. Discuté à l'infini, on a dit qu'il y a 4 millions de préjudices. En fait, il n'y a pas eu de préjudice financier dans cette affaire, puisque de toute façon, les sommes qui étaient versées pour les assistants parlementaires étaient acquises aux élus. Donc c'est pas bien, c'est un délit, c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus lui donner une gravité qui n'est pas la sienne. Bon. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que effectivement le législateur a prévu l'inéligibilité. Mais je rappelle que le tribunal n'a pas appliqué la loi Sapin 2 qui rend l'inéligibilité obligatoire, encore obligatoire dans la mesure où le juge ne veut pas transgresser, c'est un peu le principe des peines planchers hein, qui est appliqué là. Le juge peut toujours revenir à condition de motiver spécialement sa décision. Il a appliqué les lois précédentes qui prévoient l'inéligibilité comme une sanction pénale comme une autre, que le juge peut appliquer ou ne pas appliquer. Donc le juge est quand même responsable de sa décision. Et enfin, il y a surtout le problème, au-delà de la discussion qu'on peut avoir sur la nature du délit et sur la gravité des peines demandées, il y a le problème qui est posé ici et celui de l'exécution provisoire que Denis Salas vient d'exposer. L'exécution provisoire, elle est évidemment nécessaire dans le code pénal, elle est très utile dans beaucoup d'affaires, hein, on peut pas relâcher les gens, mais elle est encadrée par quelques principes. C'est qu'elle est applicable quand il y a un risque de récidive ou de réitération. Bon, elle est applicable quand il y a un risque pour l'ordre public très très grave. Ben, le violeur en série, vous le relâchez pas dans la nature. Elle est applicable s'il y a un risque de fuite, par exemple. Bon, là, il y a aucun de ces motifs n'était recevable. Et ce qui m'a moins choqué dans la motivation du juge, c'est au-delà de la réitération qui était improbable parce que un parti qui est improbable jusqu'au en tout cas jusqu'à l'appel, sous la loupe hein, de l'opinion et des magistrats, ne va évidemment pas réitérer ses actes dans les mois qui viennent. Mais ce qui était le plus choquant, c'était la partie sur cette invention du juge qui est l'ordre public démocratique. Voilà, qui dit l'ordre public démocratique exige que Madame Le Pen ne puisse pas se présenter, il le dit explicitement, à l'élection présidentielle, parce que voilà, on imagine quelqu'un qui a été condamné en première instance, qui pourrait l'être définitivement en appel, pourrait se présenter et être élu, alors qu'elle est sous la menace de cette condamnation définitive. Et ça c'est quelque chose qui me paraît devoir alimenter la réflexion de tout le monde, y compris des magistrats. Je pense que là, on a franchi une limite, précisément, entre la politique et le judiciaire.
Voilà exactement les termes de la décision de justice motivant l'exécution provisoire. Vous les citez dans un article du Figaro, Henri Guénot. Le tribunal prend en considération le trouble majeur à l'ordre public démocratique qu'engendrerait en l'espèce le fait que soit candidat, par exemple, et notamment à l'élection présidentielle, voire élu, une personne qui aurait été déjà condamnée en première instance, notamment à une peine complémentaire d'inéligibilité pour des faits de détournement de fonds publics, et pourrait l'être par la suite définitivement. J'ajoute deux choses. La loi Sapin ne s'appliquait pas puisqu'elle est postérieure aux faits jugés par ce tribunal. Et j'ajoute en plus, comme le dit l'avocat de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselot, dans un entretien au dernier numéro de Causeur, le tribunal écrit qu'elle est une récidiviste en puissance au motif qu'elle a osé recourir à un système de défense consistant à minimiser la gravité des faits. Mais, ajoute l'avocat, n'est-ce pas le droit le plus élémentaire d'un prévenu de défendre une lecture juridique différente de celle du ministère public ? Vous plaidez coupable, vous faites acte de contrition et vous pouvez avoir l'indulgence des juges.
Juste faire une remarque.
Ça veut dire quoi, ça ?
Si je peux juste faire une remarque, c'est que je ne suis pas l'avocat de Mme Le Pen, je ne suis l'avocat que de l'idée que je me fais de la citoyenneté et de la démocratie, voilà, pour que les choses soient...
Mais deux choses. La première, c'est que on peut parfaitement se taire, mentir, raconter ce qu'on veut devant un tribunal, il n'y a pas de sanction. Mais en même temps, le juge, l'opinion, les journalistes, la presse, peut aussi, est libre de tirer les conséquences de ce silence ou de ces atermoiements ou de ces mensonges. Donc la liberté de jugement par rapport à une attitude de défense est tout à fait libre. La deuxième chose, ce qu'on comprend mal, c'est qu'un juge peut effectivement avoir une position légaliste, d'appliquer la loi, de l'interpréter, mais il peut aussi avoir le souci des conséquences de sa décision. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais juge des enfants pendant ma première carrière professionnelle. Je pouvais effectivement protéger un enfant, prendre une décision de placement, etc. Mais j'étais aussi soucieux des conséquences de ma décision et de la manière dont cet enfant allait être traité par tel ou tel foyer ou telle équipe éducative. De même, vous incarcérez quelqu'un, vous le condamnez, mais néanmoins, au cours de la peine, vous êtes responsable du déroulement de la peine et éventuellement de la sortie. Donc ce raisonnement conséquentialiste qu'on comprend mal, qui est très fréquent dans la pratique professionnelle ou même dans les considérations des cours d'appel, a été utilisé. Ces juges ont eu le souci des conséquences de leur décision sur l'élection présidentielle.
Ah oui, mais justement, ils se mettent de ce qu'ils ne regardent pas. Quand même.
On peut raisonner comme ça, oui. je vous l'accorde, c'est une interprétation que j'entends. Mais en même temps, le souci qu'ils ont eu au regard des lenteurs de la justice dont ils font effectivement état dans la décision, montre qu'ils ont effectivement voulu que ce télescopage entre l'élection présidentielle et le procès de Marine Le Pen, notamment en appel, qui aurait pu intervenir deux ans, voire plus après, aurait été préjudiciable pour le bon fonctionnement de la démocratie. C'est l'interprétation que je comprends de leur vision des choses.
Alors, moi, je suis parfaitement d'accord avec vous sur l'attitude conséquentialiste, comme vous l'appelez. Hein, c'est-à-dire, je pense que le juge doit tenir compte des conséquences de ses actes, ce qui n'est pas toujours le cas, et ce qui me paraît préjudiciable à l'état de droit et à l'autorité de la justice. Donc, vous avez parfaitement raison sur le principe, mais justement, je trouve que dans le cas présent, le juge n'a pas tenu compte, en réalité, des conséquences de son jugement sur l'ordre, ce qu'il appelle, qui est nouveau, hein, qui n'a pas été inventé. Bon, l'ordre. Moi, je suis assez partisan de l'ordre public immatériel, mais il va falloir l'encadrer, en discuter. C'est une chose qui est absolument indispensable. Mais là, il n'a pas tenu compte des conséquences de sa décision sur ce qu'il appelle l'ordre public démocratique. Là, on s'attaque à un principe fondamental de la démocratie, hein, qui est un principe constitutionnalisé, qui est celui du libre choix de l'électeur, dans lequel le juge n'a pas à interférer précisément parce qu'il a à tenir compte des conséquences extrajudiciaire de sa décision. Et là, il me semble qu'il s'est aventuré sur un terrain qui ne peut pas être le sien, parce que précisément, cette décision a des conséquences sur l'équilibre
Vous savez, Oregano, que juste avant cette décision du tribunal correctionnel, le Conseil constitutionnel avait rendu une décision,
je l'ai lu,
oui, qui donne une mission au juge d'établir un contrôle de proportionnalité entre le droit à l'éligibilité ou le droit des électeurs de se prononcer et les faits issu du dossier que le juge a en charge. Et il se trouve que dans cette affaire-là, le juge a estimé que le poids de ce dossier, il faut en parler quand même, l'ignorer.
On est au cœur du sujet.
Il a effectivement fait cette évaluation, il a considéré que là, effectivement,
Il y a beaucoup de gens, beaucoup de juristes éminents, pas un juriste éminent, mais j'ai un jugement sur cette question, considèrent que précisément le juge n'a pas tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel, ou plutôt de la recommandation du Conseil constitutionnel, qui dit, bien sûr, il faut tenir compte des circonstances de l'espèce, mais il y a ce principe fondamental de la liberté de l'électeur qu'il faut respecter. Donc il faut trouver un équilibre sans mettre en cause ce principe qui est un principe fondamental. Il me semble, comme a beaucoup de gens, à tort ou à raison, mais il me semble qu'on a qu'a été prise une décision qui ne respecte pas cet équilibre.
Un appel est intervenu, donc on va bien discuter.
Heureusement, il va arriver assez tôt, mais une remarque quand même, qui doit juger au fond de la possibilité d'offrir un choix ou non à l'électeur. Si vous voulez, les procès, ils sont publics. Bon, les décisions du juge sont publiques. Donc, tous les citoyens sont au courant de cette affaire. Ils peuvent donc juger en parfaite connaissance de cause, le jour de l'élection, s'ils considèrent que ça doit empêcher un candidat de se présenter ou pas. Alors, l'inéligibilité légale mérite une discussion, encore une fois, politique, démocratique, très large, mais l'exécution provisoire, ici, me paraît être allée beaucoup plus loin que le simple fait qu'il y ait l'inéligibilité prévue dans le code pénal.
Voilà, elle est très souvent pratiquée, comme vous le savez, dans d'autres cas que celui-là.
Elle est pratiquée pour les élus locaux en particulier.
Et pour les nationaux aussi.
Pour les nationaux, elle est pratiquée, mais ils peuvent aller jusqu'au bout de leur mandat. Pour les élus nationaux...
Et puis moi, ce que je trouve très important, c'est que la Cour d'appel ait entendu le message, en quelque sorte, que le tribunal correctionnel lui disait. On a avancé la date de l'appel afin que l'élection présidentielle se déroule dans de bonnes conditions. Je trouve que c'est important, cette décision-là, qui est une décision apparemment administrative et non pas judiciaire, mais qui permet quand même de montrer que le monde judiciaire sait s'adapter à une situation afin de permettre que, effectivement, la séparation du politique et du judiciaire soit effectivement établie et, dans le temps, séparée.
Ce raccourcissement du délai pour l'appel a été très sévèrement jugé par certains médias, notamment par Le Monde, qui s'est indigné non de l'inéligibilité, mais du traitement de faveur envers Marine Le Pen. Et je voudrais citer ici Pierre-Henri Tavoyau, le philosophe, qui n'est ni un militant, ni un avocat, ni un sympathisant du Rassemblement National, loin s'en faut, mais qui dit qu'en cas d'espèce, on peut parler d'abus de contre-pouvoir. Et il ajoute que, effectivement, les peines d'inéligibilité ont augmenté de manière considérable. Et il dit c'est peut-être démesuré, d'autant plus qu'on ne se prive pas de dénoncer les disqualifications de candidats quand elles ont lieu en Iran ou en Russie. Le risque existe désormais que l'on bascule d'une démocratie à une nomocratie, le pouvoir des normes. Et il faut rappeler ici l'affaire Fillon, quand même. Fillon, en 2017, se présente à l'élection présidentielle. Il a de grandes chances d'être élu. Les sondages lui sont favorables. Un article paraît dans le Canard enchaîné sur des emplois fictifs. Le lendemain, une information est entamée et on attend que le juge Tournaire soit de permanence pour lui confier l'instruction parce qu'il est une telle sévérité avec Sarkozy qu'on n'a aucun doute, il aura pas besoin de consulter le dossier pour mettre François Fillon en examen, qui a donc été disqualifié. Donc ça fait une disqualification en 2017, une éventuelle disqualification en 2027. L'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs, Denis Salas. C'est quand même la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Mais est-ce que la séparation des pouvoirs est respectée quand la justice veut, en tout cas, faire les élections? Denis Salas.
Marine Le Pen a un droit à faire appel de cette décision. La décision, le jugement d'appel a été avancé. Je reviens quand même à cet avancement de la décision du jugement d'appel parce que dans cette affaire-là, il y a eu une violence verbale d'hostilité au juge sans précédent. La présidente de du tribunal correctionnel a été mise sous protection policière, menacée de mort, et beaucoup d'autres aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger cet avancement de la décision, parce que ça permet effectivement de réinstitutionnaliser le débat lui-même, qui devenait totalement sauvage. On a vu les déclarations du RN à l'Assemblée nationale, qui étaient d'une violence extrême, jouant sur le mot exécution provisoire, exécution capitale. On a vu que la sémantique était assez flottante et d'une extrême violence. Donc le fait qu'on redonne au RN une perspective d'instituer son débat avec la justice et avec ses propres affaires en avançant le calendrier me semble de ce côté-là très, très important. En outre, vous avez vu comme moi, les parlementaires ont proposé de revenir sur l'exécution provisoire, soit pour la supprimer, soit pour proposer un appel. La loi peut intervenir, Alain Finkielkraut. La loi est toujours maître du jeu. Il n'y a pas d'abus de contre-pouvoir, comme le dit M. Tavolo. Il y a là une possibilité. Henri Guénaud propose même, j'ai vu, la grâce présidentielle. Donc il y a quand même là des ressources argumentatives, des ressources législatives qui ne manquent pas pour, en quelque sorte, permettre à Marine Le Pen de faire valoir ses droits.
Henri Guénaud.
Alors moi, je suis totalement opposé aux lois fabriquées dans l'émotion, la passion, première chose, et puis supprimer toute exécution provisoire n'a pas de sens.
C'est suggéré.
Je suis tout à fait d'accord, mais moi, je suis totalement opposé à cette façon de légiférer. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais préféré proposer ma préférence aller vers une grâce présidentielle partielle, puisque la grâce présidentielle concerne l'application de la peine et non pas du tout la condamnation, qui n'aurait porté que sur l'exécution
partielle
provisoire.
Sur l'inéligibilité.
Non, sur l'exécution provisoire.
Sur l'exécution provisoire,
oui, d'accord. D'abord parce que les recours sont pas achevés pour le reste, et oui, que le Rassemblement national ou Mme Pen n'avait aucun intérêt à demander la grâce présidentielle, mais sur l'exécution provisoire, qui est une décision qui n'a pas de recours, qui est sans recours, sauf dans des cas de privation de liberté, où on peut faire un recours devant, les avocats peuvent faire un recours devant la juridiction qui a été l'origine de la condamnation, mais là, il n'y avait aucun recours. Donc, c'était une condamnation d'une certaine façon définitive jusqu'au procès d'appel, sans recours. Ça justifiait parfaitement que le président de la République, pour préserver le bon fonctionnement des institutions, qui est son rôle, prenne une décision de grâce présidentielle qui aurait, à mon avis, permis de résoudre temporairement le problème jusqu'à l'élection présidentielle, sachant que c'est arrivé à Jacques Chirac, par exemple. On peut très bien être condamné après le mandat du président, même quand c'est 12 ans après, comme ça a été le cas pour Jacques Chirac. Donc, voilà, je pense qu'on n'a pas forcément choisi la meilleure solution, en plus, en changeant le calendrier, pour une raison simple. D'abord, ça lèse un certain nombre de justiciables qui attendaient depuis longtemps que leur jugement vienne en appel. Bon. Et ça crée ce soupçon d'inégalité devant la loi. Bon, c'est une décision. Après tout, la Cour d'appel a tiré de la leçon du débat et elle a pris cette décision. Mais je pense qu'il y avait une décision plus simple qui était parfaitement compatible avec l'état de droit. Juste une question quand même sur l'état de droit dont on parle. L'état de droit, c'est pas une religion non plus. C'est quelques principes tout à fait essentiels. La séparation des pouvoirs, la prévisibilité du droit, et les droits de la défense. Voilà, en gros, ce qu'est l'état de droit fondamentalement.
Et l'indépendance de la justice.
Oui, mais l'indépendance de la justice, c'est un sujet qui mérite un débat. C'est-à-dire que, voilà, la prévisibilité, oui, parce que ça me rappelle la formule d'un juriste que j'ai lu, que j'ai reprise d'ailleurs, que je trouve très bien, c'est, ça ne peut pas être, nul n'est censé ignorer le droit, mais ça devient, nul n'est censé ignorer le droit tel qu'il sera interprété. Donc là, on entre dans quelque chose qui est, et ça ne concerne pas, bien entendu, parce qu'on parle de ces procès emblématiques, mais il y a tous les autres, ceux des milliers d'élus locaux, on en poursuit un par jour, alors ils sont pas tous condamnés, mais déjà, l'engagement des poursuites ruine la réputation.
Un mot simplement. On ne reviendra peut-être pas sur la grâce, parce que j'ai lu ce que vous avez écrit. Je ne suis pas certain que Marine Le Pen la demande formellement. Je pense que quelqu'un qui se dit innocent ne veut pas d'une faveur du président de la République.
Avant d'avoir épuisé ses recours.
La Cour de cassation le dit par ailleurs. Je rappelle que Dreyfus avait demandé sa grâce auprès du deuxième conseiller de guerre, et il ne voulait pas. Justement.
Oui, il a fini par l'avoir quand même.
Non, il a été jugé et acquitté définitivement par la Cour de cassation en 1906. Vous voyez, ce qui permet effectivement de montrer que la grâce, qui est une simple remise de peine, ne peut pas satisfaire quelqu'un qui se dit fondamentalement innocent avec l'atteinte à son honneur.
Une remarque, parce que d'abord, la grâce, elle est dans l'ordre juridique,
constitutionnel,
mais il n'est écrit nulle part que la grâce est conditionnée par une demande. C'est-à-dire que le président de la République aurait très bien pu, de lui-même, gracier sur cette partie-là, qui ne remettait pas du tout en cause la condamnation. Hein, d'abord, la grâce ne remet pas en cause la condamnation. Et là, elle était sur un point très, elle pensait sur un point très particulier, qui est l'exécution provisoire. Jamais je n'ai proposé que la dispense de l'inéligibilité, c'était juste l'exécution provisoire qui jetait un trouble important dans le fonctionnement des institutions et de la démocratie.
Et ça, c'est le rôle du président. Il aurait fallu accepter cette thèse pour le faire.
Oui, bien sûr.
Ce qui n'est pas forcément le cas.
Et en plus, le président de la République avait tous les moyens, non seulement les moyens de le faire, mais il avait la position pour le faire, la position morale, puisque ça n'était pas son ami politique, mais voilà, je maintiens que c'était une solution possible, alors, tout à fait conforme à l'état de droit. Voilà.
Alors, c'est une position possible, mais enfin, le président de la République est sous la surveillance des médias. Je rappelle, comme ça on en reviendra à ce cas, qu'il a refusé de retirer sa Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy, et que ça lui était très vertement reproché, et que Julien Bayou, dont j'ai découvert à cette occasion qu'il était avocat, a entamé des poursuites contre ce refus de retrait. Voilà, et c'est Le Monde a consacré un article. Alors un mot aussi, la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice, mais il ne faut pas oublier que le pouvoir judiciaire est un pouvoir. Et Montesquieu l'a dit, pour que nul n'abuse du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, est-ce que quelque chose arrête le pouvoir judiciaire aujourd'hui? On peut se poser la question, et le pouvoir judiciaire ne peut pas s'abriter derrière l'indépendance de la justice pour refuser de se concevoir lui-même comme pouvoir. Enfin, c'est une question que nous débattrons, mais venons-en à Nicolas Sarkozy. Il a été requis contre lui 7 ans de prison, 300 000 euros d'amende, 5 ans de privation de droits civiques, civils et familiaux. Dans l'affaire Libyenne, il aurait touché de l'argent, et cet argent, on n'en a pas...
C'est des réquisitions.
C'est des réquisitions, je dis bien, c'est des réquisitions, bien sûr. Mais surtout, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire, dans les réquisitoires, on lisait qu'il était animé d'une ambition politique dévorante, d'une soif de pouvoir, qui faisait preuve de cupidité, qu'il avait conclu un pacte de corruption faustien. Est-ce que c'est un réquisitoire sévère, ou est-ce que c'est plutôt un réquisitoire violent, prononcé presque la bave aux lèvres, si j'ose dire, Denis Salars?
Je ne connaissais pas les termes utilisés par le parquet, en l'occurrence. En tant que juge moi-même, je m'étais opposé à des réquisitions, pas du même ordre, mais enfin, que j'estimais excessives. Donc je peux tout à fait comprendre qu'on puisse réagir comme vous le faites. Non, simplement, pour reprendre à la question de est-ce qu'il y a un excès de pouvoir de la justice, ou même... Prenons le Conseil constitutionnel, par exemple, qui me semble un très bon exemple. Il y a très souvent des réserves d'interprétation et un dialogue qui s'installe entre le législateur et le Conseil constitutionnel, au terme duquel, effectivement, la loi peut être vue en fonction de telle ou telle directive d'interprétation. Et puis, il y a autre chose que l'on oublie, que Georges Vedel appelait le lit de justice, c'est-à-dire que, effectivement, si le Parlement estime que l'interprétation du Conseil constitutionnel, effectivement, ne le satisfait pas, il peut se réunir en Congrès et changer la Constitution. Et ça a été, Badinter nous racontait souvent qu'en 93, lors de la cohabitation avec Balladur, sur la question du droit d'asile, effectivement, il y avait une contestation, une divergence, et le Parlement s'est réuni en Congrès et a changé la Constitution contre l'avis la position du Conseil constitutionnel, avec une réaction de Mitterrand qui était à l'époque assez intéressante, puisqu'il dit, écoutez, respectez la souveraineté nationale, hein, vous n'êtes pas là pour vous y substituer. Donc voilà, il y a quand même des ressources, je dirais, juridiques et constitutionnelles pour permettre effectivement au Parlement réaffirmer son pouvoir quand il lui semble que, sur tel ou tel point, la justice va trop loin, qu'elle soit judiciaire, administrative ou constitutionnelle.
Alors, je peux vous faire une remarque, parce que là aussi, on est au cœur du sujet. C'est que la grande difficulté du sujet que vous venez d'évoquer, c'est que il est au cœur de cette extension indéfinie de la subjectivité, que ce soit du juge judiciaire, parfois du juge administratif et du juge constitutionnel.
Mais moi, je conteste la subjectivité.
Oui, mais c'est à partir du moment où le juge constitutionnel a, depuis 1971, inclus dans le bloc de constitutionnalité le préambule de la Constitution, on se trouve dans le domaine, en grande partie, de la subjectivité, puisque ce texte n'a jamais été fait, c'est pas un texte juridique, et c'est un texte de principe. Quand le Conseil constitutionnel définit sa propre idée de la liberté ou de l'égalité, et maintenant de la fraternité, dans tous les principes, les grands principes de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui ont rempli tout leur office politique, moral, philosophique pendant des décennies, même pendant presque deux siècles, sans jamais être judiciarisé. Et là, on entre dans un terrain qui devient extrêmement complexe. Quand vous dites, on peut changer la Constitution, mais d'abord, changer la Constitution ne suppose pas seulement l'accord du Parlement, suppose l'accord du président de la République, qui peut choisir de réunir en congrès ou pas, de recourir à la voie du référendum. Donc c'est l'exécutif plus le législatif. C'est quand même très, très compliqué d'appliquer cela à des cas individuels qui sont des cas d'école. Voilà, je veux dire que...
Simplement, toutes les démocraties libérales aujourd'hui, si vous voulez, ont une cour constitutionnelle qui est là pour rendre présent, en quelque sorte, les droits fondamentaux qui ont été affirmés en 89, en 91 ou dans l'après-guerre. Ça fait partie de l'édifice même. Et je rappelle quand même une chose très importante. Ces cours constitutionnelles, elles ne s'auto-saisissent pas comme la Cour suprême américaine. Elles dépendent effectivement des plaidoiries des avocats et des citoyens plaideurs qui proposent une argumentation qui sera ou non validée. L'idée de la fraternité que vous évoquez, ça a été discuté très longuement, pendant plusieurs années. Le parquet était hostile. Bon, et a défendu l'idée que c'était une illégalité flagrante. Et cet argumentaire-là s'est confronté à d'autres arguments. Et au bout du compte, c'est arrivé devant le Conseil constitutionnel. Donc je dirais par là qu'il y a tout de même, non pas une subjectivité, mais une confrontation d'argumentation qui, au bout du compte, est tranchée par une collégialité.
Oui, mais cette collégialité est aussi une subjectivité. Enfin, je veux dire que c'est pas seulement la subjectivité d'un homme, ça. Si personne n'arrive à se libérer.
Mais c'est objectif.
Et à s'émanciper complètement.
Objectif dans des argumentations dont nous sommes tous témoins.
Oui, mais on peut se demander si ce n'est pas un état d'esprit très répandu. Parce qu'il faut rappeler ce principe de fraternité. Il a été appliqué dans une décision du Conseil constitutionnel prise le 6 juillet 2018. Il découle du principe de fraternité, la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour en France. C'était de cela qu'il s'agit. C'est là une interprétation de la fraternité qui est étonnante, parce que la fraternité, égalité, liberté, fraternité, c'est entre citoyens. Là, il s'agit, me semble-t-il, d'autre chose. Il s'agit de l'affirmation selon laquelle, en effet, tous les hommes sont égaux en dignité, une affirmation qui a pris une particulière force après la Deuxième Guerre mondiale, et en vertu de cette affirmation, toute forme de préférence nationale est rendue suspecte, sinon même criminelle. Et il me semble qu'on s'oriente de plus en plus vers cette interprétation, et donc le droit fait la morale, et cette morale va dans le sens de l'idée d'humanité universelle, et donc de la dilution de la nation, et même éventuellement de la politique, parce qu'il n'y a de politique que dans le cadre d'une communauté particulière. Donc c'est une évolution qui touche le Conseil constitutionnel, mais peut-être une grande majorité de magistrats aujourd'hui, comme le prouvent d'autres décisions dont nous pourrons parler.
Oui, c'est une interprétation philosophique qu'on peut entendre, mais ce que dit le Conseil est plus modeste, et je dirais plus modéré que cela, parce que le Conseil n'a jamais voulu, dans cette affaire, autant qu'il me semble l'analyser de cette manière-là, il n'a jamais voulu considérer que l'entrée dans le territoire national était une excuse que l'on pourrait considérer comme permettant d'expliquer le comportement de cet agriculteur, mais c'était précisément l'aide apportée, l'aide désintéressée apportée par cet agriculteur aux populations en souffrance qui était considérée comme lui permettant de bénéficier d'une immunité en termes de solidarité. Donc c'est quand même là une vision globale humanitaire qui pourrait prêter à confusion, mais une vision juridique qui a distingué l'entrée au séjour et l'aide au séjour, qui me semble quand même devoir être faite. Le droit, c'est aussi des distinctions, si vous voulez. C'est aussi des distinctions, c'est pas simplement une vision globale de l'humanité qui pourrait prêter à telle ou telle interprétation philosophique. Et il faut respecter le raisonnement juridique de ce point de vue-là.
Ce qui est gênant, c'est qu'une fois qu'on a constitutionnalisé ce principe, la loi peut être abrogée par le Conseil constitutionnel en fonction de l'interprétation qu'il va faire de l'application du principe de solidarité, de fraternité dans le cas d'espèce. Donc moi, je suis partisan, à titre philosophique et même spirituel, du fait qu'on ne condamne pas de la même façon quelqu'un qui a protéger quelqu'un qui est dans le malheur ou qui est en danger et quelqu'un qui l'a fait délibérément pour faire échapper aux lois de la République la personne qui l'a
discuté ça.
Voilà, mais la personne qui l'a aidé parce que c'est son idéologie et sa conception à lui de la fraternité universelle. Voilà, je pense qu'il y a une différence, que les juges fassent cette différence me paraît très important, que le Conseil constitutionnel décide de censurer la loi en fonction de l'idée qu'il s'en fait, me paraît en revanche une avancée de plus vers la subjectivité. La subjectivité en soi, de toute façon, il est inévitable qu'il y ait une part de subjectivité dans tous les jugements. La justice est humaine. Mais la question est toujours la même pour moi, jusqu'à quel point.
On a un désaccord philosophique, parce que moi, je ne vois pas du tout les choses en termes de subjectivité. Une délibération, si vous voulez. C'est une confrontation de points de vue. D'abord, dans l'audience avec les avocats et le procureur. Donc ce sont des points de vue qui s'affrontent, il n'y a pas de subjectivité. Des agréments s'affrontent et ensuite il y a une délibération qui intervient entre différentes personnes, parfois plusieurs, qui permettent effectivement d'aboutir à un consensus. Donc si vous voulez, la subjectivité, ça serait une personne qui affirmerait souverainement telle ou telle position sans ne rendre compte à personne. J'ajoute, si vous permettez quand même une chose, la motivation dans l'affaire Le Pen, mais dans cette affaire-là aussi, est très importante. Parce que la motivation, ça a l'air d'être un schéma procédural secondaire, mais ça permet effectivement de dire à l'opinion publique, de dire à la cour d'appel, de dire à tous les témoins, voilà comment nous avons jugé. Voilà quels arguments nous ont convaincus. Nous avons jugé, mais nous vous faisons juge de notre jugement. Et cette réversibilité, là, me semble un acte de reddition des comptes, on peut le dire comme ça, qui fait partie de la démocratie aujourd'hui. Oui, mais... Donc je pense que là, on n'est pas du tout dans la subjectivité. On est dans une délibération publique, démocratique, qui assume devant l'opinion sa position.
Qui assume la subjectivité de sa position, parce que dans cette histoire, il y a des subjectivités qui s'affrontent. Voilà, et dire je vous fais juge d'eux, non, précisément, la justice ne fait pas juge d'opinion de quoi que ce soit, puisqu'elle n'a en réalité pas de compte à rendre. Voilà. Donc, et donc.
Si, puisqu'elle expose.
Et donc, mais elle expose, voilà, mais ça n'a pas de conséquence.
Ça n'a aucune conséquence. Cassation,
mais ça, c'est toujours.
Désapprobation.
Non, ça, on peut pas s'en tirer avec ça en disant, si vous êtes pas content, vous faites appel. La succession des degrés de juridiction, avec l'appel, la cassation, ne suffit pas à faire de la vérité judiciaire une vérité objective. Elle est une garantie de plus, mais elle n'est pas une garantie absolue. Et on n'échappe pas. D'abord, personne n'échappe à la subjectivité de son milieu, de son corps.
Personne n'a dit
ça. Voilà.
Et donc, la vérité absolue.
Voilà. Non, et donc il y a une part de subjectivité. Elle est absolument inévitable parce que je ne crois pas à la justice qui soit juste la bouche de la loi, qui se contenterait de lire le texte. La justice est humaine et elle doit le rester. Et donc il y a une part de subjectivité. La question est jusqu'où, jusqu'à quel point.
Vous savez ce que disait Paul Ricoeur ? La justice, ce sont des médiations imparfaites.
Voilà, mais il a parfaitement raison.
Je trouve que c'est très juste.
C'est une très belle formule.
C'est très juste parce qu'elle permet effectivement de dire nous sommes dans l'imperfection, mais nous essayons précisément d'arriver à un consensus qui satisfait.
Mais la justice essaye-t-elle ? Parce que personnellement, je ne parlerai pas forcément de subjectivité, je l'ai dit, d'état d'esprit ou de nouvelle doxa. Et là, je voudrais citer le passage d'un livre de Jean-Éric Schotel, que vous connaissez, « La démocratie au péril des prétoires ». Il dit, ce nouvel état d'esprit déprécie le commun pour mieux valoriser l'autre. C'est-à-dire, tel chroniqueur vedette d'une chaîne d'information vaudra celle-ci une amende du CSA pour avoir rendu un hommage trop appuyé à la colonisation française de l'Algérie, mais la tonalité explicitement meurtrière du hadith du rocher, le jour du jugement, le juif se cachera derrière l'arbre et la pierre, et l'arbre et la pierre diront aux musulmans, ô serviteurs de Dieu, il y a un juif derrière moi, viens et tue-le, sur laquelle est construit le prêche d'un imam de Toulouse, diffusé en 2017 sur les réseaux sociaux, ne caractérise pas, selon le tribunal correctionnel, une incitation à la haine raciale. Et on peut multiplier les jugements dans ce sens. Donc, il y a quand même un état d'esprit dans la magistrature aujourd'hui qui n'est pas exclusivement représenté par le syndicat de la magistrature, dont je crois vous êtes toujours membre.
Adhérent.
Et qui va dans ce sens aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est aussi cet état d'esprit qui s'est acharné contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bismuth, si vous voulez, c'est-à-dire pacte de corruption entre Thierry Herzog, Gilbert Azibert, magistrat de la Cour de cassation, et Nicolas Sarkozy, autour d'une demande qui aurait été faite à Nicolas Azibert qu'il en sache un peu plus sur une décision de la Cour de cassation, en échange de quoi il obtiendrait un poste ridiculement payé dans la principauté de Monaco. Aucun fait n'est avéré. Ça n'a pas eu lieu. Et il se retrouve aujourd'hui, l'ancien président de la République, avec un bracelet électronique. Là, en plus, c'est pas simplement un état d'esprit, c'est le règlement de compte avec un homme, lorsqu'il était président de la République, qui voulait réformer l'instruction et qui avait mal parlé des juges. Donc, on s'interroge quand même sur, justement, l'état d'esprit régnant dans le monde de la justice. Denis Salas et puis Henri.
Oui, parce que j'ai...
Voilà, oui, bien sûr.
Non, d'abord, sur la citation de Jean-Éric Chotel, je suis étonné parce que l'apologie du terrorisme, les procédures explosent actuellement. Maintenant, est-ce qu'il y a un état d'esprit général dans la magistrature qui serait revanchard à l'égard de tel ou tel élu politique, notamment Nicolas Sarkozy? C'est votre interprétation. Moi, je constate simplement que les juges sont destinataires de dossiers qu'ils n'ont pas choisis, qu'ils ne se sont pas saisis, qu'on leur a remis, qu'ils ont enquêté, qu'ils ont découvert des faits, qu'ils ont qualifié ces faits de pacte de corruption. On peut le discuter. C'était d'ailleurs très largement discuté par les avocats notamment. Et que, effectivement, à partir de là, des jugements qui sont dans cette affaire Bismuth, je crois, définitif, autant que je me souvienne, actuellement,
qui sont... La Cour européenne des droits de l'homme est saisie.
Est saisie, pardon. Oui, mais le jugement est définitif. La Cour européenne, elle ne remet pas en cause le jugement.
Hein. D'accord.
Non, simplement, moi, je rebondis sur la question de l'honneur et de l'infamie sur lesquelles j'ai récemment un peu travaillé. J'ai l'impression, et d'ailleurs Nicolas Sarkozy et ses partisans l'ont souvent dit, que ces affaires sont une ignominie, une infamie qui porte atteinte à son honneur. Et je trouve intéressant, d'un point de vue anthropologique, cette nuance, parce que si vous vous placez sous le registre de l'honneur et de l'infamie, vous ne pouvez pas rencontrer le droit ou la loi. C'est-à-dire, la loi vous dit non, nous ne parlons pas de votre honneur. Vous pouvez effectivement le percevoir comme cela, mais nous sommes dans une dialectique de l'infraction et de la peine qui enferme effectivement le registre dans la loi. Et à partir du moment où vous dites honneur, infamie, vous êtes dans une vision des choses qui ne peut pas rencontrer la loi. Donc, essayez de vous rapprocher de la loi pour le comprendre, mais c'est cette incompréhension des deux registres qui me semble être au cœur de la question et qui ne permet pas effectivement que les perceptions que l'on a de la situation judiciaire que l'on vit rencontrent la perception que les juges ont, à eux qui appliquent la loi et qui ne sont pas destinataires d'un jugement sur l'honneur ou sur la respectabilité de la personne. D'où la question de la Légion d'honneur dont on parlait tout à l'heure de Nicolas Sarkozy. La loi dit d'un côté: toute personne qui a été condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement, de droit, doit être démis de sa Légion d'honneur. La loi le dit. Mais celui qui entend cette loi dit: mais moi, mon honneur, je veux effectivement le respecter, je récuse cette loi. Et c'est le raisonnement que tient Emmanuel Macron, si je ne m'abuse, en disant: je ne veux pas que l'on porte atteinte à l'honorabilité d'un ancien président de la République en prononçant une sorte de déchéance morale que cette loi qui est de fait, qui devrait être appliquée, lui serait appliquée. On voit bien la dialectique de l'honneur et de la loi, qui est une vision, moi je trouve intéressante à creuser pour aller un peu plus loin que notre discussion, qui permet quand même de poser la question sur ce registre-là, qui me semble être au fond, au cœur, en tout cas en partie, de l'incompréhension entre le monde des juges, qui est le monde de la loi et le monde des politiques et le monde de l'honneur, du rang, de la respectabilité, de la fonction exercée, qui ne peuvent pas se rencontrer actuellement.
Alors, je trouve ce sujet très, très passionnant. Et effectivement, ça fait partie des débats que nous n'avons jamais. Très importante parce que il ne peut pas y avoir de primauté de la loi sur les questions de l'honneur, ni de primauté de la question de l'honneur sur celle de la loi, et qu'il faut trouver un accommodement. C'est-à-dire que l'incompréhension ne peut pas subsister si on veut que l'ordre social subsiste. Voilà. Il ne peut pas y avoir d'ordre social sans qu'il y ait des notions d'honneur, de réputation. Voilà. Mais je voudrais revenir au fond du problème, au-delà même des cas emblématiques dont nous parlons. Quand je parlais de la subjectivité, et on l'a vu simplement, c'était un cas d'école dans les affaires, dans les procès des deux derniers procès Sarkozy, mais on la voit tous les jours dans les affaires qui touchent aux élus locaux, par exemple, sur tous les sujets qui sont inclus dans cette catégorie vaste des soi-disant atteintes à la probité. À partir du moment où vous considérez, par exemple, que la prise illégale d'intérêt peut être avérée, même si l'intérêt n'est pas matériel ou tangible, s'il est, par exemple, purement moral. Vous entrez dans le domaine, naturellement, de la subjectivité. La question est de savoir jusqu'où. Je vous en donne un exemple qui a fait frémir et qui angoisse tous les élus locaux. C'est lorsque un maire vend un bien à quelqu'un, personne ne reproche à la commune d'avoir lui donné un prix avantageux, d'avoir méconnu les règles, la régularité des procédures, etc. Il n'y a pas de préjudice pour personne, mais le juge dit, il y a des liens d'amitié, il y avait des liens d'amitié entre le maire et la personne, l'acquéreur en question, et même il a été son partenaire de golf. Bon, et que la Cour de cassation dit, il suffit qu'il y ait un lien d'amitié et qu'il ait été son partenaire de golf pour que le délit soit constitué. Là, vous êtes dans la subjectivité totale. On a fait d'ailleurs la même chose à Monsieur Dupont-Moretti. Tu auras raison, mais là, c'était pas l'amitié, c'était l'inimitié. Voilà, entre l'avocat et le client et celui auquel il avait en tant que garde des sceaux eu des attitudes pour lesquelles la victime s'était plainte. Mais s'il n'avait pas été jugé par la Cour de justice, il aurait été condamné. J'en suis absolument convaincu. Mais sur un critère qui est subjectif, c'est-à-dire que, mais en tout cas, c'est le critère de l'inimitié dans un cas, de l'amitié dans d'autres. Tout ça ouvre la porte à une subjectivité qui est très grande. L'histoire du pacte de corruption.
Subjectivité, interprétation,
c'est une interprétation, elle vient de la subjectivité. Mais c'est normal, encore une fois, c'est humain. Je ne reproche pas la subjectivité.
Je peux juste vous répondre sur les élus locaux. Vous dites, effectivement, il y a ce cas que vous évoquez, l'amitié, l'inimitié, etc. Mais il y a des cas où la loi peut intervenir. Dans le cas des élus locaux.
Mais je suis d'accord. Souvenez-vous, dans les années
2000, il y a eu une pénalisation des élus locaux pour des délits non intentionnels qui a suscité une inquiétude majeure parce qu'ils se retrouvaient en garde à vue, etc., avec des risques de détention, etc. Et la loi est intervenue. La loi fameuse loi Fauchon, qui a dit, pour qu'il y ait un délit non intentionnel, pour les élus locaux notamment, pour les décideurs publics aussi en particulier, il faut une violation caractérisée de la situation avec une responsabilité liée à une intervention délibérée du décideur dans l'infraction établie. Et du coup, effectivement, comme la loi a vidé de sa substance le risque d'une surinterprétation de l'intention frauduleuse de l'élu locaux ou du délit, effectivement, ces délits ont quasiment disparu aujourd'hui. Mais on oublie toujours que le juge applique la loi. Pardon de le rappeler, cette évidence, ce truisme, et que la subjectivité n'est pas toujours au premier plan de cette forme d'interprétation.
Je pense qu'il ne viole pas la loi, mais que la loi a laissé des espaces où le juge...
C'est ça, alors là, Henri Guénaud, c'est partout pareil. Je suis d'accord. La loi ne peut pas épuiser le foisonnement du réel.
Non, mais là,
et c'est pour ça qu'il y a des juges qui sont là pour effectivement...
Là, la dérive de la loi est quand même patente. En tout cas, elle crée une dérive du droit pénal, parce que c'est quand même ça qui nous importe aujourd'hui le plus, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur le droit civil ou sur le droit administratif, le droit pénal c'est quand même autre chose.
Il doit être d'interprétation stricte.
Voilà, il doit être d'interprétation stricte. En même temps, la preuve est libre en droit pénal, et aujourd'hui je trouve que la subjectivité, mot que vous n'aimez pas, mais elle dévore la preuve.
Écoutez, malheureusement on est obligé de s'arrêter. brutalement. J'en suis désolé parce que la discussion était passionnante. Alors, je voudrais dire en effet...
Quand ça commence à devenir passionnant, vous...
Que vous avez co-dirigé avec Basile Adler, Claude Gauvard, Denis Salas, un livre intitulé « L'infamie, histoire et métamorphose à la documentation française ». C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique Charles Bouticourt. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Qui sont les nouveaux maîtres du monde et que nous apprennent-ils ?» Mon invité sera Giuliano da Empoli. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.